D'abord, que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisque on ne livre pas le moyen de s'en servir.
Secret professionnel par Charles Danzy. La semaine dernière, j'étais en compagnie de l'architecte Bertrand Lemoine à la mairie du 1er arrondissement de Paris afin de découvrir les premiers éléments du secret professionnel d'un architecte qui a tellement compté pour Paris et à qui Paris rend tellement peu. Nous avons parlé de ses querelles avec le baron Haussmann. Eh bien, on a donné au baron Haussmann un grand boulevard que l'on connaît dans notre capitale, alors que le très négligé Itorf, puisque c'est d'Ignace Itorf dont nous continuerons à parler aujourd'hui, n'a qu'une toute petite rue. Et les dieux de la postérité savent s'y avoir le nom d'une rue et l'indice de la gloire dans notre pays. Il y a quelques années, la ville de Toulouse a tenté d'attribuer une rue à je ne sais qui en lui donnant celle qu'avait mon grand-père Lefebvre, un des fondateurs de la transfusion sanguine en France. Je ne me suis pas laissé faire et mon grand-père a gardé sa rue. Eh bien, les descendants d'Itorf pourraient demander d'échanger la très courte rue du 10e arrondissement à son nom contre une avenue, elle correspondrait sans doute mieux au mérite de leur ancêtre. Cet ancêtre, il y a des portraits de lui, les portraits d'un homme important de l'époque et comme on l'était à l'époque, manière très différente de la nôtre. Il porte des favoris comme un empereur d'Autriche ou un singe, car on était assez simiesque vers 1860. Son visage est mou, il est gros, sa vaste poitrine est couverte de décorations. C'est un genre que pouvait précisément avoir mon grand-père dans les circonstances et les photos officielles il y a 50 ans. Cela a heureusement été tué par le kénédo-giscardisme, si je puis dire, et on est aujourd'hui plus mince et moins velu. Les architectes qui travaillent dans Paris, comme Renzo Piano que j'ai reçu dans Secret Professionnel, n'ont plus l'air de préfets qui banquettent. Je me trouve en compagnie d'un de leurs confrères, comme la semaine dernière, au bord d'un boulevard qui n'est pas très éloigné de la rue Itorf. Le boulevard Beaumarchais a été ouvert en 1670, sous un autre nom bien sûr. Près de 100 ans plus tard, Itorf a aménagé l'avenue du Bois de Boulogne, depuis avenue Foch. Il la voulait large de 40 mètres. Dans ses mémoires, fier de lui et de sa courtisanerie, Haussmann raconte qu'il lui a dit « Est-ce donc là le prolongement du bois vers Paris que Sa Majesté désire ? 40 mètres ? Mais monsieur, c'est le double, c'est le triple qu'il nous faut. Oui, je dis bien, le triple, 120 mètres. » Et voilà comment les tartarinades d'obséquiosité font les avenues trop larges. Itorf avait-il, architecturalement, le style d'époque ? Qu'est-ce qui lui a valu ces décorations et cet oubli ? Quel est le secret professionnel enfin de ce grand architecte ? Je suis au Cirque d'Hiver pour en parler, en compagnie donc de Bertrand Lemoine, architecte lui-même et directeur de recherche au CNRS. Bertrand Lemoine, pour commencer, voulez-vous nous dire où nous sommes dans Paris ?
Alors, le Cirque d'Hiver, il est établi le long du boulevard Beaumarchais, mais ce boulevard qui est lui-même ouvert sur les anciennes fortifications, sur le tracé en fait des anciennes fortifications, il faut y voir qu'il était à la limite de Paris pendant longtemps. Aujourd'hui, on le perçoit comme évidemment étant au centre, mais il était à la limite, et cette limite induisait bien sûr des pratiques particulières, notamment beaucoup de théâtres, des staminets, de cafés, de restaurants. C'était un lieu où on venait non seulement se promener, mais on allait au spectacle. C'était un lieu où on se donnait aussi en représentation, peut-être d'une manière plus populaire aussi que dans la partie ouest, autour du Palais Royal par exemple, ou du boulevard Montmartre. Donc un lieu qui avait cette vocation déjà bien ancrée avant Haussmann, autour du spectacle. On l'appelait même le boulevard du crime à une époque, parce qu'on y commettait des crimes nécessairement, mais parce qu'on y mettait en scène beaucoup de drames et de crimes au théâtre. Et donc ce cirque d'hiver où on est ici est venu s'installer tout à fait au début du Second Empire, dans un contexte déjà vraiment tourné vers la représentation. Mais il est venu aussi s'installer dans un contexte où le cirque, peut-être pas dans l'image qu'on a aujourd'hui bien sûr du cirque, mais dans l'idée que ces grands bâtiments plus ou moins circulaires ou polygonaux en tous les cas, où on pouvait représenter dans une scène centrale toutes sortes de spectacles, en particulier des spectacles équestres, mais on pouvait aussi utiliser, dans certains cas, et ça s'apparente, ce cirque, à ce qu'on appelait des panoramas à l'époque, qui étaient des manières de représenter aussi des paysages, des scènes de bataille, des grands bâtiments circulaires, qui étaient tapissés à l'intérieur d'une grande toile, une grande fresque, où on avait ce regard panoptique qui permettait d'embrasser, en se tournant, bien sûr, d'un seul regard, un panorama dessiné et peint. Ici, dans ce cirque d'hiver, on embrassait d'un seul regard avec cette salle tout à fait originale, circulaire, qui est aujourd'hui très très lié à la représentation du cirque, bien sûr, où les spectateurs sont tout autour. Il était aussi à l'époque une manière de mettre en scène différemment que dans le théâtre à l'italienne, le théâtre un peu classique avec son orchestre, bien sûr ses loges latérales. Là, les spectateurs étaient autour, étaient immergés au fond dans la présentation, et c'est ça qui fait l'originalité de ce bâtiment.
Vous parliez des panoramas, ça m'a fait penser, Bertrand Lemoine, au passage de la pension Vauquer de Balzac où tous les personnages se mettent à parler en rama. Ça a été une mode dans les années 1830 comme ça, à cause des panoramas, et il y a toute une conversation très comique et bouffonne comme ça où ils parlent tous en rama.
Oui, Balzac parlait même des machins en rama, il y avait la vogue des dioramas, la vogue du panorama, la vogue de toute cette nouveauté au fond de spectacle qui était liée bien sûr à des représentations traditionnelles, mais qui avait un lien assez étroit avec la photographie naissante. Nadar lui-même, d'ailleurs, était bien sûr le photographe qu'on connaît, mais aussi peintre de panoramas. Et ces panoramas qui ont démarré en 1800 autour du passage des panoramas, précisément, qui ont perpétué le souvenir, donc sur le boulevard Montmartre, eh bien, ont été, pendant toute la première moitié du 19e siècle, très, très en vogue pour proposer, avant le cinéma, bien sûr, avant la photo, une vision très, très complète. Il en subsiste quelques-uns en Europe, notamment autour de la bataille sur le site de la bataille de Waterloo, le panorama à Moscou, le panorama de la bataille de la Moscova, ou aux États-Unis, à Gettysburg, par exemple, où il y a un panorama qui commémore également cette bataille. Donc voilà, une idée nouvelle de la représentation du monde, mais aussi de spectacles qui étaient offerts aux foules, ce qui n'était pas non plus courant, ce qui commençait à s'imposer au 19e siècle. Et là, configuration circulaire qui est tout à fait remarquable.
Alors là, nous sommes à l'intérieur. Dans ce cirque qui est devenu la propriété de la famille Bouglione et qui est donc le cirque d'hiver Bouglione depuis 1934, mais est-ce que vous voulez nous décrire à quoi ressemble extérieurement ce cirque d'hiver qui, vous l'avez dit, est un pendant au cirque d'été qui se trouvait sur les Champs-Élysées et dont Itorf aussi, je crois, était le créateur?
Voilà, ici, le cirque s'appelait d'ailleurs le cirque impérial, par opposition au cirque qui se trouvait sur les Champs-Élysées, qui était le cirque de l'impératrice. Et ce bâtiment, c'est un bâtiment extrêmement simple en réalité. C'est un polygone, presque circulaire, qui est un mur un peu périphérique, à l'intérieur duquel sont ménagés des gradins, et au centre, bien sûr, se trouve une piste. Et une toiture couvre l'ensemble, ici une toiture en bois, en charpente, assez, assez grande quand même, compte tenu des dimensions de l'édifice. On a fait aussi des toitures, notamment Itorf, dans le cirque d'été sur les Champs-Élysées, a fait une toiture en partie métallique. C'était aussi un des précurseurs de cette architecture nouvelle qui utilisait le métal comme une ressource constructive intéressante, comme ses contemporains, Labrousse l'avait fait à la bibliothèque Sainte-Geneviève, par exemple, quelques années seulement auparavant, comme Balta allait le faire au Hall de Paris, à peu près en même temps que se construisait ici le cirque d'hiver. Donc un bâtiment extrêmement simple qui, d'emblée, d'ailleurs, se signale à la fois par son volume, comparable à celui d'un immeuble, mais c'est de très grande dimension, tout de même, par sa forme extrêmement lisible, et au fond qui suggère tout de suite qu'à l'intérieur, eh bien, on a cette espèce de grande salle circulaire.
Restons-en un peu à l'extérieur, décrivez-nous un peu ce polygone qui, je crois, a 20 côtés et 40 fenêtres, parce qu'il est peint, il est décoré, il y a des fresques, et aussi des statues en fonte, je crois.
Alors, ce polygone n'est pas seulement un mur, évidemment, banal. Il est décoré de plusieurs éléments, des grands pilastres avec des surmontés de chapiteaux composites. Donc, composites, c'est-à-dire à la fois corinthiens par les feuilles d'acanthe, ioniques aussi par les volutes. Donc, qui exprimaient à l'époque un édifice, bien sûr, dédié au plaisir, dédié à la distraction. On n'est pas dans une prison où on aurait trouvé un ordre dorique plus mal. Donc on est vraiment dans une architecture dédiée à ce qu'on appellerait aujourd'hui les loisirs. Donc une architecture tout de même assez savante. Quand on voit le dessin de ces chapiteaux extrêmement fins, extrêmement soignés, on est vraiment dans quelque chose du même ordre que des bâtiments beaucoup plus prestigieux, entre guillemets. On a également tout un registre de sculptures qui évoquent à la fois, et de frises aussi, qui courent tout autour du bâtiment, qui évoque à la fois, c'est un mélange intéressant d'une transposition au fond des frises qu'on pourrait trouver comme celle du Parthénon, par exemple, qu'à l'époque on venait de démonter pour le transférer à Londres, au British Museum, où il est toujours, cette grande frise avec cette accumulation à la fois de personnages mythologiques, de chevaux, etc., de mise en scène en quelque sorte d'une histoire. Et en même temps, ici, on a beaucoup de chevaux et on a également dans la frise beaucoup d'éléments qui évoquent directement l'univers du cirque. On voit des jongleurs, on voit des souffleurs, on voit des clowns, on voit en fait mélangé à cette référence très classique, qui était chère à Itorf, qui avait lui-même travaillé cette architecture classique, qui avait publié là-dessus, on voit cette idée de de transposer au fond des éléments grecs, antiques, à la réalité contemporaine. Et puis c'est un bâtiment qui est coloré, qui est moins coloré aujourd'hui parce qu'on l'a un peu restauré depuis, on a un peu atténué cette coloration, mais c'est un bâtiment qui à l'époque était éclatant de couleurs.
Pardon, il faut dire justement, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'on est, comme vous nous le dites depuis tout à l'heure, Bertrand Lemoine, dans un lieu de spectacle, mais tout ça est lié à Itorf, théoricien aussi, dont on parlait la semaine dernière. Il a, je crois, été un des premiers à insister sur la polychromie des temples grecs, dont on retrouve peut-être un écho ici. Et aussi, puisque aussi, je crois que vous êtes ingénieur, il avait écrit en 1836 un traité sur l'utilisation du fer fondu dans les statues. Et je crois que ça s'applique dans les deux grandes statues de part et d'autre de l'entrée du cirque d'hiver.
Oui, Itorf, sous ses dehors d'architecte très, très classique en quelque sorte, voire néoclassique, un peu tardif, était un grand novateur, à la fois sur les registres de la technique moderne, la fonte qui était un matériau nouveau. Il lui-même avait travaillé dans sa jeunesse sur la construction de la coupole de la halle au blé, aujourd'hui la Bourse de commerce, une des premières grandes couvertures en métal construites en France. Bon, c'était en 1806, 1810. On venait d'achever le pont des Arts. Et donc la fonte matériau nouveau ouvrait avec la fer par la suite une perspective tout à fait intéressante aux constructeurs. Et Itorf s'est saisi d'ailleurs de ce matériau, à la fois pour les aspects décoratifs qu'il permettait, la fonte de statues bien sûr, ou d'ornements, de grilles, de balustrades. Et il s'en est saisi aussi d'une manière beaucoup plus... je dirais fonctionnel en quelque sorte, à la Gare du Nord, avec la grande halle de la Gare du Nord, ces colonnes très très élancées en fonte, avec ce système de chapiteaux, mais aussi de charpentes métalliques qui couvrent, et encore aujourd'hui, 160 ans plus tard, la plus grande partie des voies ferrées de la Gare du Nord. Donc Itorf, c'était quelqu'un qui était intéressé à la technique, mais bien sûr pour l'intégrer dans une conception classique. Et cette conception classique, il a apporté quelque chose de vraiment nouveau pour l'époque. C'était la conviction, mais fondée sur ses propres travaux archéologiques ou en tous les cas de relevé et d'exploration des ruines, notamment des temples de Ségeste et de Célinonte en Sicile, où il avait remarqué des traces de polychromie. On avait déjà vu que, effectivement, déjà au milieu du XVIIIe siècle, qu'effectivement il y avait de la couleur, mais bon, on était quand même encore dans l'époque néoclassique, dans une architecture blanche, très épurée, dans une interprétation, au fond, à partir des ruines de l'architecture grecque, et non pas de la réalité de ce qu'avait été l'architecture grecque. Et Itorf s'est attaché, à la fois dans des publications, il a fait une première communication à l'Institut en 1830, et puis il a par la suite publié en 1851 un grand relevé, il montrait que ces temples étaient colorés. Il a même lui-même réimaginé, bien sûr, des temples qui étaient à l'état de ruine avec des traces de couleurs, il les a redessinés, colorés comme il le pensait, ce qui était juste sans doute pour une partie, peut-être pas autant qu'il, aujourd'hui on le sait, ou peut-être pas autant qu'il l'avait imaginé. Mais surtout, il a montré que cette vision un peu classique ou figée de l'Antiquité qu'on pouvait avoir à l'époque ne correspondait pas à la réalité, que cette couleur, exactement à la même époque, on redécouvrait la couleur aussi dans les églises ou les cathédrales gothiques, cette couleur était intrinsèquement liée à l'architecture grecque et à la manière d'exprimer cette architecture et de mettre en valeur certains détails, ne serait-ce que pour protéger, et ça c'est la référence, disons, un peu antique ou constructive à l'architecture de bois qui a précédé l'architecture de pierre dans l'architecture grecque, ne serait-ce que pour protéger le bois, eh bien on le peignait, et si on le peignait, eh bien on le peignait avec des couleurs. Donc il a vraiment été l'un des promoteurs le plus ardent de cette redécouverte archéologique. Mais en même temps, c'était un architecte qui a transposé ses recherches théoriques sur la couleur dans son architecture. Si on imagine l'église Saint-Vincent de Paul, aujourd'hui, donc, cet intérieur très coloré, il avait imaginé que toute la façade était recouverte, aurait été recouverte de plaques de lave émaillées, colorées, qui représentaient des scènes, bien sûr, notamment la nativité, etc., qui ont été d'ailleurs déposées, posées, puis déposées face, bien sûr, au fait que représenter de manière aussi littérale, peut-être, à l'extérieur des scènes bibliques n'étaient pas appropriées, peut-être des scènes de nudité qu'on reprochait à l'époque. En tous les cas, il a lui-même, dans son architecture, introduit cette idée de la couleur, pas systématiquement, pas partout, mais notamment dans les édifices qui lui semblaient appropriés de ce point de vue-là. Des églises, une église, c'est un temple, en quelque sorte, contemporain, et un temple grec était coloré, il n'y a pas de raison que les églises contemporaines ne le soient pas. Un cirque, le cirque d'hiver, était un lieu de plaisir, et il n'est pas bien sûr contradictoire avec cette idée que la couleur vienne rehausser en quelque sorte le plaisir des spectateurs.
En même temps, on l'a vu déjà la semaine dernière, une des grandes querelles architecturales à Paris à ce moment-là, c'était celle de Haussmann et de Hittorf. Et Haussmann, dans ses mémoires, raconte précisément que Haussmann, qui était donc un préfet, qui voulait un ordonnancement sérieux, et comme je le disais dans mon introduction, très flatteuse pour l'empereur, voulait des choses sérieuses. Il raconte dans ses mémoires qu'il a imposé à Hittorf de diminuer les couleurs de Saint-Vincent-de-Paul parce qu'il trouvait que c'était trop tapageur. Et donc, est-ce que ça a été une des querelles de Paris à ce moment-là, ou est-ce que j'exagère ça? Cette querelle de la couleur sur les bâtiments. En tout cas, Haussmann la met en valeur, lui.
Je crois que la réhabilitation de la couleur dans l'architecture antique qu'avait apporté Hittorf, qu'avait démontré Hittorf, qu'avait restitué Hittorf à travers ses dessins, et dans l'architecture contemporaine, pour lui d'ailleurs, c'était lié, puisque bien sûr, l'Antiquité était la source d'inspiration principale. Si on modifiait la perception de l'architecture antique, il était normal que l'architecture contemporaine que Hittorf dessinait le soit aussi. Eh bien, cette idée que la couleur pouvait redevenir un élément important de l'architecture, elle était contradictoire avec les idées dominantes de l'époque, à la fois dans l'archéologie, mais aussi dans l'architecture. Et pour Hittorf, ça a été un combat. Il a été, de ce point de vue-là, critiqué, parfois vilipendé. Il a eu des opposants assez sérieux. Et peut-être, d'ailleurs, une partie... non pas de son discrédit, mais de sa notoriété, disons, moyenne aujourd'hui, qui n'est pas à la hauteur sans doute de ce qu'il devrait être, vient de son côté en opposition, de son côté un peu novateur, où il a introduit une idée qui choquait, qui aujourd'hui encore choque, qui aurait choqué aussi peut-être les architectes modernes du XXe siècle. On était dans la nudité, dans la blancheur. Donc peut-être qu'aujourd'hui même, la couleur reste un élément toujours un peu polémique, provocateur, et qu'elle n'est pas encore complètement réintégrée au fond dans le corpus de notre architecture, comme elle peut l'être à l'époque des Grecs ou qu'elle a pu l'être à l'époque gothique également.
En tout cas, dans un cirque qui pouvait s'en donner à cœur joie. Il faut dire que ce cirque Napoléon Bertrand Lemoine a été donc construit en 1852 et je crois qu'il a été construit en 8 mois, ce qui est très vite, même si c'est simple. Est-ce que c'est déjà pas un exploit de construire aussi vite un bâtiment pareil ?
Il faut se souvenir qu'à l'époque, on n'avait pas de moyens techniques pour construire, mais on construisait assez vite. Rappelons-nous que la partie métallique de la Tour Eiffel a été construite en 22 mois, en moins de 2 ans, donc ce qui serait peut-être pas possible de faire aujourd'hui. En tous les cas, on construisait vite, mais c'est un édifice, encore une fois, relativement simple, léger, même s'il est en maçonnerie, et qui s'inscrivait aussi dans l'idée que ces bâtiments dédiés au spectacle ou dédiés au... ou des restaurants. Hittorf lui-même avait construit plusieurs restaurants, 5 restaurants. Il en subsiste 3 aujourd'hui autour dans les jardins des Champs-Élysées. Il avait été architecte des menus du plaisir, il était architecte ordonnateur de fête. Donc, l'idée de l'architecture éphémère, construite avec des matériaux simples, voire provisoires, ce qui n'était pas le cas du cirque d'hiver, parce qu'il est construit en maçonnerie, mais en tous les cas, à l'économie, en quelque sorte, était finalement adaptée à l'idée que ces bâtiments n'avaient pas forcément une vocation de pérennité éternelle. Le cirque d'hiver était suffisamment bien construit, même si les fondations sont rudimentaires, et sa charpente en bois, encore aujourd'hui subsistante avec les moyens de l'époque, suffisamment bien construit pour rester encore aujourd'hui parmi les monuments remarquables de Paris. Donc il y avait aussi cette opposition, même peut-être, entre une architecture plus pérenne, plus durable, construite en pierre, et puis une architecture plus éphémère, plus liée à quelque chose presque, on dirait, de l'événementiel aujourd'hui, qui était construite d'une manière plus simple.
Alors là, nous sommes à l'intérieur, dans la grande salle. Je crois qu'elle avait été prévue pour accueillir 6000 personnes, donc elle est très grande. Je crois qu'elle fait 42 mètres de diamètre et 28 mètres sous plafond, et nous sommes sous ces 28 mètres, qui sont peints de couleurs turquoise et blanche, avec des lustres bleus et des sièges peints en rouge, mais c'était sûrement pas comme ça à l'époque. En tout cas, la salle a été réduite, puisque maintenant, je crois qu'elle en fait 1600, enfin la capacité a été réduite, et il y avait aussi une écurie pour 200 chevaux. Ce qui est intéressant, Bertrand Lemoine, c'est que c'était aussi un technicien, et que j'ai lu, dites-moi si c'est vrai, que le système de chauffage même du cirque d'hiver a été inventé par Hittorf, et qu'il a pris en compte, pour décider des dimensions des poêles, de la chaleur de l'éclairage au gaz de l'époque. Donc, est-ce qu'il était ou simplement malin ou un pré-écologiste ?
C'est une époque où on commence bien sûr à construire des bâtiments publics qui accueillent du public nouveau. C'était pas le cas forcément au XVIIIe siècle, où il y avait relativement peu de bâtiments publics. Un château, c'était autre chose. Et où on se préoccupe bien sûr du confort des occupants, et où les progrès technologiques permettent de renouer au fond avec le système de distribution de chaleur par de l'air chaud, notamment avec un système de poêle ou de chaufferie centrale, une distribution de l'air par des canalisations et des poêles qui sont d'ailleurs souvent partie intégrante de l'architecture. Si l'on songe par exemple aux bibliothèques construites juste avant par la Brousse, la bibliothèque Sainte-Geneviève ou la bibliothèque nationale construite quelques années plus tard, après le cirque d'hiver, on a là aussi un système de distribution de l'air chaud qui fait partie au fond de l'architecture. Donc les commodités et le confort apporté par le chauffage dans les édifices publics est à l'époque un sujet à l'ordre du jour. Les progrès de la technique permettent de le faire, et puis les exigences aussi de confort du public amènent à bien sûr l'intégrer d'une manière structurelle en quelque sorte au bâtiment. On ne pourrait pas faire des bâtiments, un bâtiment comme celui-ci a besoin, c'est un cirque d'hiver, rappelons-nous, donc il a besoin de fonctionner en hiver, donc il a tout de même besoin d'être chauffé pendant la saison froide.
Quelle est la part de modernité à l'époque de Hittorf, puisque vous nous racontez depuis tout à l'heure ces sources traditionnelles et classiques, vous l'appelez néoclassique. Est-ce que d'abord à l'époque, en dehors des éléments de couleur qui ont pu choquer, comme vous le disiez, il passait pour un néoclassique? Il passait pour quoi? Est-ce que c'était un architecte innovateur?
Hittorf, il arrive avec les architectes de sa génération à une époque où le néoclassicisme, c'est-à-dire le retour en fait aux valeurs du classicisme pur et dur, dirait-on, en tous les cas plus directement inspiré de l'Antiquité. On redécouvre d'ailleurs les ruines grecques, même romaines, à partir du milieu du XVIIIe siècle. Il y a des relevés qui sont faits, donc on repuise en quelque sorte à la source, ce qui va donner naissance à toute la période néoclassique de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Et en fait, à partir du moment où, enfin, l'époque où Hittorf commençait à être actif, dans les années 1825, et toute la période, bien sûr, de la Restauration de Juillet et le Second Empire, il va, avec les architectes de sa génération, d'une part, revenir aux sources, mais en même temps, parce que les sources commencent à être explorées peut-être de manière encore plus systématique qu'elles l'étaient au XVIIIe, mais en même temps, chercher à dépasser le côté qui peut paraître un peu sec, un peu abstrait de l'architecture néoclassique, cette architecture de lignes, au fond, de surfaces blanches, d'espèces d'architecture un peu sévère, pour revenir à une architecture beaucoup plus ornée, colorée d'une part, mais aussi ornée de sculptures, de bas-reliefs qui évoquent éventuellement des figures mythologiques. Enfin, il y a des rinceaux, la moindre surface de pierre devient peut-être le support d'ornements, de décors qui viennent en quelque sorte rendre plus aimable. Et au fond, on a une architecture dans les années 1840 qui renoue avec une tradition décorative qui avait été beaucoup plus épuré avant. Et puis, cette génération, avec Duban, avec Henri Labrouste, architecte dans des bibliothèques Sainte-Geneviève et nationales, cette génération s'intéresse aux nouveaux matériaux, s'intéresse à la technologie moderne, on a parlé du chauffage, mais aussi les technologies constructives, la fonte, le fer, les nouveaux matériaux, les nouveaux programmes aussi qui sont proposés. Et Hittorf, de manière assez symptomatique, va couronner sa carrière par la construction de la Gare du Nord, la nouvelle façade de la Gare du Nord et sa grande halle. Et donc, cette génération va s'approprier ces moyens constructifs, va rester, bien sûr, dans une interprétation assez proche de l'Antiquité, mais en y rajoutant une touche décorative qui va permettre à la génération suivante de s'approprier beaucoup plus librement ce vocabulaire décoratif, de dépasser l'architecture purement antique, si vous voulez, pour y introduire d'une part des éléments gothiques, par exemple, mais aussi beaucoup plus éclectiques de la Renaissance, etc., qui va donner naissance à une architecture, celle de la fin du Second Empire et de la fin du XIXe siècle jusqu'à l'Art Nouveau, si on veut. Donc la période que représente Hittorf, cette période 1825-1860, disons, est vraiment une période un peu charnière, où il y a une innovation formelle, une innovation technologique, mais aussi il y a ce dépassement du modèle classique.
Est-ce qu'il a été un des premiers à travailler autant avec des artistes et des sculpteurs, puisque on parlait des deux sculptures équestres en fonte de l'entrée qui sont de Pradier et Bozio? Il est assez frappant qu'il ait travaillé très souvent avec des sculpteurs, des artistes et des peintres. Est-ce que il a été un des premiers à faire ça? Et est-ce que c'était une innovation à l'époque?
Il y a déjà dans l'architecture néoclassique, même au XVIIIe, beaucoup de sculptures intégrées à l'architecture, mais au XIXe, ça devient la règle, à la fois parce que c'est un élément décoratif, c'est un élément aussi allégorique, symbolique, qui exprime à travers les figures mythologiques, à travers les représentations qui sont faites dans la décoration, y compris dans des détails, la destination des bâtiments, leur type, qui exprime, qui raconte en quelque sorte une histoire sur les bâtiments. Et donc l'intégration de la sculpture, elle devient très générale dans l'architecture. Et Hittorf lui-même, qui est devenu membre de l'Institut, qui avait beaucoup d'amis artistes, sculpteurs notamment, quand on regarde la façade de la Gare du Nord, il y a les statues des villes qui couronnent, des villes desservies par le chemin de fer du Nord qui couronnent la gare. Il y a plusieurs sculpteurs qui ont travaillé, même si on voit ça comme une unité. Et donc, il a fait toujours travailler ses amis sculpteurs, ses amis peintres aussi, pour intégrer, disons, cette dimension picturale à son architecture. C'était le cas aussi des contemporains. Donc, on a vraiment la réinstallation de la sculpture dans l'architecture, comme partie prenante de l'architecture, qui est vraiment caractéristique, à mon sens, du 19e siècle, et qui dépasse simplement la simple transcription des éléments je dirais décoratifs classiques, que sont le chapiteau par exemple ou la frise. On a vraiment un vocabulaire sculptural particulier qui est associé étroitement à l'architecture.
Pour finir, Bertrand Lemoine, la postérité de Itoff a été très très déclinante. D'abord, pour son malheur, Haussmann, qui était d'une génération plus jeune, l'a survécu et il n'a pas dit, on l'a répété dans ses deux secrets professionnels, que du bien de lui dans ses mémoires. Ensuite, il a légué toutes ses archives, ses collections et ses dessins à sa ville natale de Cologne. Tout ça a été pillé par les nazis, parce que les nazis ont aussi volé l'Allemagne. Et je crois qu'il ne reste que sur les 20 000 pièces archéologiques qu'il avait léguées à Cologne, on a gardé trace de 20 seulement. Ses dessins ont été assez mal conservés aussi, ses archives photos, c'est des éléments de perte de mémoire. Qu'est-ce qu'il reste de Itoff aujourd'hui pour vous? Qu'est-ce qui devrait rester? Et qu'est-ce que vous retenez de lui pour Paris aujourd'hui?
Malheureusement pour lui, la postérité d'Itoff lui a sans doute pas tout à fait rendu hommage. On a commencé à le redécouvrir, je dirais, dans le champ de l'histoire de l'art dans les années, fin des années 60, avec les premiers livres qui ont commencé à sortir, y compris en allemand, en anglais, certains auteurs français s'y sont intéressés, à travers les archives conservées au Wallraf Museum à Cologne, mais aussi à travers d'autres sources, bien sûr, puisqu'il a publié lui-même pas mal de son vivant, à la fois des textes, surtout des textes d'ailleurs sur l'archéologie grecque et sur les bâtiments qu'il a pu relever ou observer, notamment en Sicile. Donc c'est quelqu'un qui a fait l'objet d'une redécouverte assez tardive, presque un siècle après avoir travaillé après sa mort. Et donc cette méconnaissance d'Itoff, elle est, je pense, en partie liée à d'abord une espèce d'occultation du 19e siècle aussi, pendant une grande partie du 20e siècle, ou en tous les cas un certain mépris dans lequel le 19e siècle était tenu. Hein. Souvenons-nous qu'on a quand même démoli les Halles sans trop scrupule au milieu des années 70, avant de redécouvrir ses vertus. Et Itoff a été un peu occulté, n'étant pas un architecte d'aussi de premier plan, étant un architecte peut-être où on n'avait pas non plus tout à fait compris son apport à la fois d'archéologue, mais aussi de réinterprétation de l'architecture classique. On a eu un peu de mal à le resituer face à d'autres architectes qui sont restés plus connus, comme Henri Labrouste, par exemple, parce que Labrouste avait fait la Bibliothèque nationale, notamment, qui a été, même dans les années 20-30, qui était un bâtiment toujours très célébré. Donc, on a mis un peu de temps à découvrir Itoff. Je pense qu'aujourd'hui, à la fois son apport à l'archéologie est peut-être mieux reconnu, même si ce n'est pas un archéologue au sens professionnel du terme, hein, même s'il n'a pas fait les relevés dans les règles de l'art, s'il a reconstitué des temples peut-être avec un peu de fantaisie, dirait-on, ou en tous les cas en s'affranchissant un petit peu des règles strictes du travail d'archéologue, mais en même temps je pense qu'il a eu un rôle important. Son rôle d'architecte parisien, parce qu'il a construit beaucoup de choses en Paris tout de même, commence à être bien identifié comme un architecte majeur de l'époque, et je pense que la Gare du Nord, qui est un des plus grands édifices certainement du Second Empire, lui rend tout à fait hommage de ce point de vue-là. Voilà, donc on redécouvre aujourd'hui sans doute cet architecte. Il n'a pas tout à fait repris la place qu'il devrait sans doute avoir dans le panthéon architectural du 19e, mais je pense que c'est un des architectes qui a vraiment contribué à donner son visage avec d'autres à la capitale qu'on la connaît aujourd'hui, à cette ville haussmannienne au fond dont on découvre les vertus de résilience, de durée, de qualité aussi, d'adaptabilité aujourd'hui, et qui a été façonnée par des gens comme Itoff.
C'était Secret Professionnel, le 257e. La semaine prochaine, je parlerai du secret professionnel de la personnalité autoritaire. Réalisation Nathalie Salle, attachée d'émission Daphné Abgral, prise de son Pierre Quintard. Dans un instant, une saison au théâtre avec Joël Gaillot.